Et voilà, Onde Noire, la deuxième partie d'émission. Et comme je l'ai annoncé dans le sommaire, nous avons le très grand plaisir de recevoir Jérôme Leroy. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Un mot de présentation, est-ce que ça vous va si je vous présente comme littéraire, littéraire et puis surtout littéraire?
Oui.
Voilà, alors en deux mots, écrivain, poète, journaliste, vous fûtes enseignant de lettres aussi?
Oui.
Voilà, alors on pourrait parler de votre dernier roman paru en début d'année, un peu tard dans la saison, qui est paru à la table ronde, mais vous nous rejoignez et nous avons le plaisir de vous retrouver pour un travail éditorial que l'on vous a confié, chez cet éditeur d'ailleurs, à la table ronde, que vous avez appelé une carte noire dans la collection La Petite Vermillon, collection pas assez connue à mon avis, qui est la collection de poche de cet éditeur, La Table Ronde. Vous pourriez nous expliquer un petit peu le principe de cette carte noire?
Eh bien, c'est tout simple. J'ai publié mes derniers romans à La Table Ronde. Et ils continuent à avoir une forte coloration noire, allons dire, parce qu'elle joue avec le genre. Et Alice Déon, qui est l'éditrice de La Table Ronde, a trouvé que c'est pas mal que La Table Ronde, qui n'est pas tellement associée au genre noir, le soit un peu plus, et le soit un peu plus dans cette collection de poches qui s'appelle La Petite Vermillon, et m'a donné une carte noire. C'est de là que vient le titre de la collection, le nom de la collection, m'a donné une carte noire pour rééditer 4 polars par an de mon choix, et qui sont donc, il s'agit de choix totalement subjectifs et parfaitement assumés.
Voilà, alors j'allais vous demander le rythme de parution, donc maintenant je le sais, donc ce sera 4 romans par an, je les ai sous les yeux, une charte graphique superbe.
Oui, l'illustrateur c'est Stéphane Trappier, pour les Parisiens, c'est celui qui fait les affiches du Théâtre du Rond-Point. Et c'est d'ailleurs le principe général de la collection et donc de ma sous-collection en quelque sorte, c'est que chaque auteur ou chaque thème a un illustrateur dédié. Voilà.
En tout cas, pour le moment, ce que je vois, c'est très très bien choisi. Vous qui êtes un grand amoureux et un grand connaisseur de la littérature et du roman noir en particulier, je suppose que le choix fut délicat pour ces 4 premiers.
Oui, c'est-à-dire que le principe était que d'abord, effectivement, ça se cantonne au domaine français. C'est largement suffisant, d'ailleurs, à mon avis, pour l'instant.
Il y a encore de quoi faire.
Qui me concerne, au domaine français. Et puis, l'idée était quand même de retrouver, entre guillemets, des textes qui avaient parfois disparu un peu vite des catalogues des libraires, des catalogues des éditeurs, pardon, et donc des librairies, et également de rendre un hommage, malgré tout, à ce qu'on a appelé le néopolar. L'appellation n'est pas très, très jolie, mais il n'empêche que ça couvre, en fait, ce mouvement que vous connaissez aussi bien que moi, qui est né avec dans les années d'après 60, enfin qui est né après 68, dans les années 70 et 80, et qui a eu une espèce de nouvelle jeunesse du roman noir avec Jean-Patrick Manchette, qui était un petit peu en quelque sorte l'initiateur de ce mouvement. Mais on a vu apparaître toute une série de noms comme Jean Vautrin, comme Fajardi et tant d'autres qui ont justement rendu au polar sa dimension de critique sociale. Et pour les meilleurs d'entre eux, et moi c'est ce qui m'importait, décidant que ce n'est pas parce qu'on était dans la littérature noire d'une part et d'autre part dans la critique sociale que ça pouvait dispenser d'être un objet littéraire, justement, c'est-à-dire d'être bien écrit, tout simplement.
Voilà. Oui, c'est un petit peu, d'ailleurs c'était ma prochaine question, c'est qu'il me semble bien que votre choix, ça a été beaucoup des romans sur le style, la langue, je dirais la virtuosité avec lesquelles ces écrivains jouent avec les mots, les consonances, avec la littérature.
Voilà,
il y a des passages magnifiques.
J'insiste sur cette idée que, à la fois, bon, ce sont les 4 titres que j'ai choisis, ce sont de formidables raconteurs d'histoire, mais ce sont aussi, à mon avis, de grands stylistes, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Ils nous apportent à la fois, et en plus, un regard aigu sur la société, et ils font avec une langue qui ne se dispense pas d'être élégante, drôle, parfois, en tout cas envoûtante à chaque fois.
Poétique, drôle.
Poétique, drôle.
Ah, voilà,
oui,
en tout cas pour.
C'est pas du tout académique le fait, le style, c'est pas quelque chose d'ennuyeux qui appartiendrait au manuel scolaire. Je pense qu'au contraire, justement, en plus, il aurait tendance à ne pas se voir parce que le lecteur, justement, n'est pas gêné. C'est pas des auteurs qui essayent de prendre un surplomb, quel qu'il soit. Ce sont des auteurs qui, au contraire, ont un style pour être encore plus, plus accessible. Et c'est pas un paradoxe.
Et pour que le propos soit parfois sous-jacent et encore plus fort.
Voilà, exactement. Et puis, et d'une certaine manière, puisque certains des textes que j'ai choisis datent des années, fin des années 70, années 80, finalement vieillissent beaucoup moins que, et ne vieillissent pas par rapport à d'autres textes qui peut-être sont plus datés parce que justement ils ont fait un peu trop de concessions à l'ère du temps et à une écriture un peu banale.
C'était un petit peu aussi mon interrogation, c'est-à-dire que le choix des textes, il faut forcément quand même avoir le souci de se dire, donc j'ai les dates, hein, le plus ancien c'est La Princesse de Crèves de K qui date de 1984, le plus récent, La Langue Chienne de Hervé Prudhon de 2008, ces textes, bon 2008 c'est pas si ancien, mais parmi les plus anciens, c'est bien que les plus jeunes d'entre nous, on va dire, les connaissent, mais il faut quand même qu'il y ait un écho par rapport à, je dirais, l'écriture et la lecture et la capacité de lecture d'aujourd'hui.
Oui, mais de toute façon, par exemple, vous citez un texte dont je suis particulièrement fier et qui est d'avoir réédité le plus récent, de lui donner une
chance. Ah oui, un des meilleurs d'Hervé Prudhon.
C'est la longue chienne d'Hervé Prudhon. Bon, Hervé Prudhon, les amateurs de noir le connaissent pour ses séries noires. Il se trouve qu'il avait écrit il avait écrit avant d'être publié en série noire, notamment chez Fayard Noir. D'ailleurs, il avait écrit un texte qui s'appelle Banquise et qui a déjà été réédité en d'autres temps dans cette collection de La Petite Vermillon. Comme quoi, avec d'ailleurs un de mes romans à moi qui s'appelle Monnaie Bleue, donc qui avait déjà ce désir de créer un ADN de polar dans cette collection, puisque en plus je rappelle, oui j'ai oublié de rappeler ce qui est de manière importante, c'est que cette collection est aussi celle où on trouve aujourd'hui l'œuvre de Frédéric Fajardy.
Oui, c'est La Petite Vermillon réédite petit
donc,
à petit l'ensemble
voilà,
des...
Depuis les oui, puis même les derniers livres de Frédéric Fajardy purement polar ont été édités en grand format à la Table Ronde. Donc il y avait déjà cette présence. Et alors pour en revenir à la Langue Chienne de Prudhon, donc que je réédite ces jours-ci, bon c'est un texte absolument merveilleux qui a été un des premiers textes édités par Aurélien Masson à la série Noire quand elle s'est retrouvée en grand format, c'est-à-dire on est donc en 2008. Bon, il se trouve que ce livre n'a pas rencontré forcément son public puisque à ma grande surprise, je me suis aperçu qu'il n'avait pas été repris en poche, par exemple, ce qui est assez rare depuis que la série noire est en grand format. Et je me suis dit, mais comme c'est incroyable que... Bon, alors, finalement, j'ai compris ce qui se passait. C'est que, pour Folio Policier, c'est un texte qui peut-être risquait de ne pas retrouver son public, le public de cette collection, et en Folio tout court, peut-être que Prudhon apparaissait comme un auteur trop identifié au noir. Donc, double peine, d'une certaine manière. Parce qu'on a beau dire que la frontière entre les genres s'efface, je ne suis pas si sûr que ça.
C'est pas si évident que ça, voilà, c'est ce qu'on essaye de montrer, mais c'est pas évident.
Voilà, et donc moi, c'était vraiment de rééditer ce texte, ça me semblait très important, parce que c'est un vrai texte noir, c'est basé sur un fait divers sordide qui s'est passé c'est pas passé dans le Nord, Prudhon transpose ça sur la côte d'Opale, voilà, près de Calais, et ce fait divers, c'est en gros un homme qui laisse sous ses yeux, enfin qui devient le martyr de sa femme et de l'amant de sa femme. Voilà.
Donc, c'est un personnage, Tintin.
Voilà.
C'est un personnage quand même assez typique d'un certain type de roman noir qu'on trouve en particulier dans le roman noir américain, le loser complet,
c'est un schéma qu'on pourrait voir chez James Cain par exemple.
Voilà.
chez Jim Thompson. Et alors, surtout, ce qui compte d'ailleurs, c'est que ce personnage, Tintin, est un déclassé. Lui appartient à une classe moyenne qui a été en plein déclin, et il se retrouve comme ça marié chez ce qu'un président de la République a trouvé bon d'appeler les cendants, en quelque sorte, et se retrouve plongé dans un milieu très populaire, celui des minima sociaux, de la détresse sociale, et donc il n'est pas à sa place non plus. Et cette absence de place se fait sentir par la langue qu'il utilise. Il n'a pas la même langue que les autres. Et donc, à travers la langue, j'entends les références, etc. Et tout. Bon, il écrit même de la poésie dans son coin, enfin, etc. Et donc, tout ça fait ce que ce constant, enfin, Prudhon montre très bien, comment il devient un bouc émissaire. Et c'est servi par une langue absolument, justement, le roman lui-même, à une langue absolument somptueuse.
Des passages qu'on a envie de lire à haute voix. Alors, je vous propose un court extrait, puisque le temps nous est compté, donc on ne peut pas... Voilà, je vais essayer de lire correctement pour rendre justice à cette langue qui n'est absolument pas chienne sous la plume d'Hervé Prudhon. « Je ne laisserai à personne dire que ce fut le plus beau jour de ma vie. C'est à moi de le dire, de le crier sur les toits, de le chanter si je veux. C'est un jour qui avait disparu pendant des jours. » Et puis un autre jour, il est venu rejoindre les autres. Il est juste allé se repoudrer le nez aux toilettes. Je n'avais plus honte de l'inviter à ma table. Bien sûr, les choses auraient pu se passer autrement. Se passer comme en poésie, quand deux pigeons se plaisent. Ou comme dans la vie, quand deux pignoux font leur petite affaire. Mais ça ne s'est pas passé comme dans la vie. Ça s'est passé comme dans la digestion. Le corps, malgré vous, sécrète et décrète. Voilà, ça c'est somptueux, bah, voilà. Magnifique.
Tout est dit, Corinne.
Voilà, après ça, je dirais qu'il n'y a plus rien à dire. Si, il faut découvrir le texte, il faut découvrir quand même ces personnages qui sont l'histoire, et quand même, on parle du style, mais la narration est absolument magnifique. Et sans transition, on va parler d'un autre roman que j'ai découvert, parce que je connais pas mal des romans d'ADG, qui a disparu depuis un moment et qui malheureusement tombe un petit peu dans l'oubli. Et ce texte-là, très court, La nuit myope, je ne le connaissais pas du tout et j'ai été enchantée de découvrir ce petit texte. En plus, dans cette collection de poches qui vous permet quand même, je fais une petite parenthèse, c'est vraiment des prix très attractifs, hein, c'est-à-dire qu'on est entre 5,90€ et 8,70€ pour les plus gros. Donc là, pour moins de 6€, vous avez un petit bonheur de lecture absolument fantastique, tant dans l'histoire, une espèce de quelques heures de la vie d'un homme. Je vous laisse expliquer pourquoi ce roman s'appelle La nuit myope.
Oui, il s'appelle La nuit myope. Alors d'abord, c'était historiquement, c'est un texte de l'ADG qui était paru dans une collection. Alors c'est pour ça que c'est quasiment un inédit. Une collection qui s'appelait L'instant romanesque chez Ballant et qui proposait des textes courts, et ce court roman n'avait jamais été réédité. Mais en fait, c'est une histoire toute simple. Là aussi, ça tient sur un ticket de métro en quelque sorte. Ça se passe à la fin des années Giscard. Je dis ça parce qu'il y a une façon de restituer le Paris de ces années-là qui est finalement aussi lointain que, je sais pas, l'Atlantide. Et on se retrouve avec un homme, en compagnie d'un homme qui est un cadre supérieur, comme on pouvait l'être à l'époque, qui fait la fête avec des collègues, qui boit un peu trop et qui tombe amoureux d'une fille dans une boîte de nuit, décide de tout plaquer pour partir avec elle, mais avant il faut qu'il rentre chez lui. Et en rentrant chez lui, et pour pas réveiller sa femme et prendre quelques affaires, le voilà qu'il casse ses lunettes. Sauf que le problème, c'est qu'il est incroyablement myope. Et donc, il va avoir comme seul auxiliaire dans cette tentative pour retrouver cette fille en pleine nuit, un gros chien, alors qui n'est pas le chien de la langue chienne, mais qui est un chien beaucoup plus...
Un berger belge, Lascar.
Oui, voilà, qui s'appelle Lascar, beaucoup plus débonnaire. Et en fait, finalement, ça c'est l'histoire, point. C'est-à-dire que si je l'ai rattaché dans une collection de romans noirs, c'est pour le nom d'ADG, bien sûr, qui me semble un nom très important dans l'histoire de ce néopolar, justement. Et puis parce qu'en plus, il y avait un côté très drôle qui était, c'était il y a un jeu de mots toutes les trois lignes, par exemple.
Ah oui, c'est impressionnant. C'est un festival.
C'est une histoire très drôle, mais c'est si vous réfléchissez un peu, enfin, c'est ce que je dis dans la présentation, c'est que c'est l'histoire d'Ulysse à l'envers. C'est-à-dire que...
En plus court, Jérôme Leroy, beaucoup plus court quand même.
Hein, parvenir. Et c'est bien compliqué, voilà.
Voilà, et puis en fait, il veut devenir un aventurier, ce personnage.
Oui.
Mais enfin,
oui.
Il veut... Bon, d'accord, c'est sur les pas de Stevenson, donc aimerait bien partir avec un âne dans les Cévennes. Mais bon, son aventure, lui, c'est Paris-Cévennes, c'est pas non plus la Thaïlande.
Non, mais ADG faisait partie de ces auteurs pour qui l'aventure commençait au coin de la rue. Mais c'est quelque chose qui correspond d'ailleurs à une sensibilité d'époque. C'est-à-dire que la littérature du voyage, la mode de la littérature du voyage, c'est très récent, mais l'évasion pouvait très bien, dans les années, à la fin de ces années 70, commencer en changeant de quartier ou en se retrouvant dans les tréfonds des campagnes françaises. D'une certaine manière, c'était l'aventure commençait comme ça.
Et l'aventure, ça commence aussi quand on prend un livre, qu'on en prend un autre, parce que c'est plein de références littéraires. On a parlé de Stevenson, mais y compris de il s'autocite.
Oui,
c'est un festival.
Oui.
Et puis ces jeux de mots. Alors, je dans la première partie d'émission, on a passé un extrait de Procol Harum, qui vient de sortir un album, parce que à un moment donné, j'ai dû le répéter plusieurs fois à voix haute. Donc, il y a un moment donné, le personnage parle des water, châle, œuf, pâle. Et j'ai mis quand même un moment à trouver que c'était le titre, un des titres phares, un des titres très connus de ce groupe Procol Harum. Donc c'est vraiment... Mais il y a quand même les codes du roman noir, parce que c'est un homme seul qui erre dans les rues de Paris au petit matin. On a quand même les lumières, on a quand même... Et puis toujours pareil, on dit toujours ce roman noir un peu transgressif. Là, c'est 80-90 pages sur 5 heures de la vie d'un homme. On a des codes et de la transgression.
Ah ben oui, c'est-à-dire que c'est en plus il y a une critique de l'époque, enfin de la fin de ces années-là, même si c'est pas forcément l'essentiel du roman. Bon, ADG faisait un peu, on peut imaginer qu'en partie le personnage était un double d'ADG. ADG c'était le réac du roman noir du néopolar, dans un genre qui était très très contestataire, gauchiste. Lui, il était plutôt, son utopie, c'était plutôt la monarchie, mais pratiquement, j'allais dire, c'était plutôt de l'ordre de la rêverie, quelque chose de féodal. Et du coup, ses références sont plus à chercher du côté d'Antoine Blondin, de Jacques Perret, et cette promenade, enfin cette errance, plus exactement, nocturne et compliquée. Est aussi un portrait de la fin des années Giscard, en fait.
Oui.
Voilà.
C'est très daté. Ça, c'est un livre, par contre, là, on sent vraiment, on peut le dater s'il n'y avait pas ces références, s'il n'y avait même pas le nom de ces hommes politiques, mais les banquettes en Moleskine, les Paris au petit matin,
l'époque. Quand j'avais lu ce texte, je l'avais lu pratiquement à sa sortie, et quand je l'ai relu là, j'ai eu l'impression d'être plongé, au moins pour le décor, vous savez, dans les films de Claude Sauté, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve un Paris qui, à la fois, n'est pas très très loin, mais qu'on ne voit plus qu'au cinéma, effectivement. Ces banquettes en Moleskine, la façon dont les gens sont habillés, les références politiques. Par exemple, à un moment donné, dans la boîte, il parle de jeunes giscardiens en goguette.
Oui.
Voilà. On est comme ça dans un monde qui est daté, mais qui justement n'est pas daté au mauvais sens du terme, mais presque maintenant un reportage ethnologique, en fait, sur historique et ethnologique sur ce que les différentes tribus parisiennes de cette époque-là.
Qu'il va croiser, ce serait très difficile, on parle de film, ce serait très difficile de le filmer, parce qu'avec cette obscurité et puis le fait qu'il voit ça dans le flou, ça pourrait donner un code très intéressant à certains réalisateurs. Mais bon.
Oui, il faudrait absolument mettre une espèce de brouillard permanent.
Il faudrait que ce soit traduit en anglais, que les frères Cohen s'y penchent.
Oui. Voilà, exactement. Et puis, oui, alors, mais il faudra faire attention parce que, en plus, une des caractéristiques d'ADG, mais qu'il avait emprunté à Raymond Queneau, est de systématiquement franciser l'orthographe.
Oui.
Des mots anglais, on boit des whisky, O-U-I-S-Q-U-I-E, hein, S, voilà.
Donc, on et puis, whisky, avec tous ces jeux de mots, c'est vrai que...
Et c'est, voilà, c'est, on joue au football.
Ce serait très difficile à traduire, mais c'est un régal de le lire en français.
Ah, je trouve, oui, vraiment.
Alors, le temps passe, il nous reste une minute. On va quand même pas laisser les deux petits derniers.
Non.
La princesse de Crèves, K. Donc là, les codes.
Là, je pense que... Alors déjà, puisqu'on a très
la
peu
couverture.
De temps... Déjà, c'était pas vrai son vrai nom, c'était Pascal Marignac. Son vrai nom, c'était c'est un auteur qui est hélas totalement oublié, mais que moi je dans le genre écriture froide, distanciée, ironique, mais presque sarcastique, qui cache elle-même sa moquerie, c'est quelque chose qui est du niveau. Je pèse mes mots de Manchette et d'Echnoz, et je note pas ces noms-là de Jean-Patrick Manchette et d'Echnoz. Je donne pas ces noms-là au hasard parce qu'en plus, Manchette et Echnoz ne cessent de reconnaître sa dette envers Manchette. Bon, bah, ça, on est dans ce niveau-là. Voilà.
Alors, c'est-à-dire que, il me reste 30 secondes, Jérôme. Je suis désolée de vous interrompre parce qu'on passerait encore une demi-heure à parler et des deux premiers et des deux derniers. Donc, juste, je vais être obligée de citer uniquement le titre. Serge Cadrupani, qu'on connaît encore bien, qui est un des seuls à publier encore parmi les quatre. Le sourire contenu, avec une pochette, enfin, une couverture assez mystérieuse qu'on vous propose de découvrir.
En même temps qu'il prouve que l'illustrateur a lu le roman. Alors, en une phrase, Polar 1997, récit de voyage et en même temps compréhension à travers un polar du phénomène de la montagne.